Bon matin. Je voudrais d'abord, pour ceux qui sont nouveaux ce matin ou ceux qui ne nous connaissent pas, qui sont là pour la première fois, ce matin n'est pas un matin régulier. Ce que vous allez voir n'est pas nécessairement régulier, mais on prie vraiment que le Seigneur puisse vous toucher. J'ai prié Dieu qu'il puisse me donner simplement de vous parler de mon cœur, mais ça se peut qu'il y ait un peu plus d'émotion que voulu. Et simplement, notre prière, c'est vraiment qu'il n'y ait pas des émotions ce matin, mais vraiment des changements de cœur. Ça commence mal. La boîte de clinique, c'est là. Parfait. On est peut-être commencé pour des annonces. Donc, toujours, il y a un temps de prière et je vous encourage à venir prier à 9h le matin, le dimanche matin. On veut instaurer un temps de prière aussi. Il y a une étude biblique les mercredis soirs et on va faire une étude de prière les samedis soirs. J'en ai pas encore totalement parlé avec le conseil parce qu'on sait pas. Il faut voir là au niveau des locaux comment les locaux vont être libres. Mais vraiment prendre des temps pour expérimenter la prière et puis pour simplement découvrir ce qu'est la prière. Aussi on veut, on a à cœur de vous pour peut-être mettre un pas concret à cela aussi, c'est faire le baptême d'église. On voudrait mettre donc, je ne sais pas si je parle assez fort, parce que depuis tantôt je bouge le micro, là, mais faire le baptême de l'église, puis l'imprimer pour ceux qui veulent. Venez donner votre nom. On va l'imprimer en mettant les photos, les noms des personnes, mais au lieu de mettre les adresses, on mettra des lignes à la place. Comme ça, on peut écrire des sujets de prière. Le dernier mois, j'ai pris du temps à prier avec le baptême de prière et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir à quel point je ne connais pas mon église, juste des visages, etc. Là. Et c'est vraiment un encouragement. On va être 4 personnes qui vont vous présenter des choses ce matin. On a préparé ça dans la prière depuis au moins 2 mois. Hier, on était de 8h30 jusqu'à minuit et demi à prier pour vous. Et je vous en prie, écoutez-nous. On commence par Émilie.
Dans Jacques 1, 6 à 8, ça dit « Il faut cependant qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Son cœur est partagé, il est inconstant dans toutes ses entreprises. » Depuis que je suis jeune, j'ai grandi avec une idée, avec une conception de la prière assez vague. Je comprenais pas ce que c'était, je comprenais pas à qui je priais. Oui, c'était Dieu, puis j'ai remercié le Seigneur parce qu'il a répondu à mes prières souvent, malgré que moi, je comprenais même pas ce que je priais. Puis souvent, je priais avec un manque de foi, comme dans Luc 18, 8, ça dit « Je vous dis qu'il » parlant Dieu, défendra leurs droits promptement. Seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore de la foi sur la terre? Puis moi, je me dis maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'il va trouver de la foi au Québec, puis même à Trois-Rivières? Donc, un certain mercredi soir, pour moi, c'était un mercredi normal, je m'en allais à la réunion de prière, puis un certain jeune homme est venu pour juste nous partager ce qu'il y avait sur son cœur, partager ce que Dieu faisait dans sa vie par rapport à la prière. Comment il était transformé de jour en jour. Puis moi, ça m'a rappelé comment moi, je ne prie pas. J'ai besoin de prier avec foi. Depuis ce soir-là, je prends le temps de prier. Je ne vous dis pas que je suis parfaite. C'est pour ça que ce matin, ça me fait pleurer parce que je vois tous mes défauts. Tantôt, le chant, il disait que Dieu a besoin d'hommes forts. Je suis pas forte. C'est pour ça que je viens au pied de la croix. On a tous besoin de faire ça. J'ai juste 21 ans, mais j'ai des défauts encore os. J'ai plein de choses à changer. Mais ça fait du bien de voir Dieu agir. Ça fait peur, mais c'est fou comme c'est bon. Dans Éphésiens 3, 14 à 18, ça dit « C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses d'être fortifié avec puissance dans votre être intérieur, que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enracinés et solidement fondés dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Je vous encourage, venez prier avec nous, mettez à genoux avec nous. On va s'unir ensemble. C'est ça, le corps de Christ, on s'unit ensemble. On prie les dimanches matins, je relance le même défi que Paul. Venez prier avec nous. Tantôt, on va prier dans le coin à genoux là. Venez, priez chez vous, priez à tous les jours. Prenez du temps. Moi, je le fais. J'ai beaucoup de choses à travailler, mais c'est tellement bon de voir Dieu agir.
Juste avant de commencer, j'aimerais ça prier. Puis, s'il y a d'autres monde qui veulent prier, bien, priez aussi. Seigneur, je me présente un matin devant toi, puis je n'ai pas vraiment préparé mon texte. Je vais sûrement bégayer comme d'habitude, mais Seigneur, c'est pas moi. Je veux pas que ce soit moi qui parle, mais que ce soit carrément toi. Puis parle à travers moi, parle au monde ici. Je sais qu'on a besoin d'un changement, moi aussi, mais je sais aussi que tout le monde a besoin d'un changement, puis plus qu'on veut l'admettre d'habitude. Puis de leur parler, de toucher leur cœur, puis. Comme le chant disait, manifeste ta présence à nous autres, Seigneur. Amen. Ah ben. Bon. Il y a eu plusieurs réveils dans l'histoire, puis là, j'ai comme une histoire, juste une. Donc, en 1850, en Angleterre, il y a eu un réveil, je pense que c'était John Wesley. Puis, ça. Puis, je ne sais pas vraiment les circonstances. Mais ça a été assez incroyable pour que durant 2 ans, il y a eu 10 000 nouveaux convertis par semaine. 10 000. On est à peu près 300, je pense. Puis ça fait plus qu'une semaine que l'Église existe. Puis Dieu, malgré qu'on est en 2008, puis ça c'est en 1850, Dieu n'est pas différent. Puis c'est le même Dieu qui a parlé à Moïse dans le buisson ardent qui a séparé les eaux, qui a envoyé l'Esprit descendre en colombe sur lui. C'est exactement le même Dieu, puis je vois vraiment pas pourquoi ça serait différent aujourd'hui. Il n'y a aucune raison logique pourquoi... Oui, il y a une raison logique pourquoi le Québec n'est pas en réveil. Pourquoi on ne se réveille pas? Pourquoi on est tout endormi? Pourquoi on n'a pas de réveil? C'est parce qu'on essaye d'avoir une vie terrestre facile, plus le paradis. Pour nous, on essaie d'avoir le meilleur des deux mondes, une vie. On veut pas être en la. Les adolescents sont bien réputés pour être bien passionnés, je pense, en tout cas. Puis les adultes, moins. Mais Jésus, on dit la passion du Christ. La passion, c'est le même mot, c'est la même chose. Il était en passion, c'est de l'amour, c'est fou. C'est comme le summum de l'amour. Puis, est-ce que nous, on est en amour comme ça, avec Christ? Jésus a dit que le monde nous reconnaîtrait par l'amour qu'on a les uns avec les autres. Mais le monde, dans votre lieu de travail ou peu importe où, est-ce que le monde le savent que vous êtes chrétien juste par instinct? Parce qu'il y a comme une différence. Le monde le sait. Notre nature, il devrait le sentir que notre nature diffère de la leur. Mais non, personne ne le remarque. En tout cas, pas beaucoup pour moi. Puis comment ça se fait que c'est ça? C'est à cause que Dieu n'est pas à la première place. Puis Dieu, si Dieu n'est pas à la première place, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre à la première place. Puis quand il y a quelque chose d'autre à la première place, bien, c'est l'idolâtrie. Carrément, des idoles. C'est aussi pire que le veau d'or. C'est pire que le veau d'or. Parce que le veau d'or, au moins, les Israélites, ils savaient. Ils savaient qu'ils abandonnaient Dieu. Ils savaient qu'ils abandonnaient Dieu, mais nous, en même temps, on pense qu'on le sert. On prie pas assez. On connaît pas Dieu. Puis comment on fait pour connaître Dieu? S'il faut y parler. Puis comment on fait pour lui parler? C'est en priant. La prière signifie simplement parler avec Dieu. C'est aussi simple que ça. Comme quand je parle avec un ami pour mieux le connaître. Je parle avec Dieu parce que c'est mon ami, parce qu'il m'a sauvé la vie. Je ne vois pas pourquoi je ne lui parlerais pas. Il m'a sauvé la vie. Je suis désolé, mais je me rends pas compte pourquoi on devrait pas passer 100% de notre temps en prière. Il nous a sauvé la vie. Il nous a sauvé de la mort, puis de la mort spirituelle, puis la mort spirituelle, c'est éternel, puis éternel, je vous dis, c'est assez long. C'est ça. Si quelqu'un, si je marche dans la rue d'un coup, puis là, il y a un char qui me fonce dessus, puis là, quelqu'un, prend la main, il me tire, fait que je me fais pas frapper. Ce gars-là, est-ce que je vais l'ignorer? Non, je l'ignorerai pas. Il vient de sauver la vie, crime. Je vais pas juste lui parler, je vais le remercier, je vais être obstiné pour lui, pour tout le reste de ma vie ou de la sienne. Puis je vais faire que je sois tout le temps disponible pour lui, 100% de mon temps. Mais c'est exactement la même chose avec Jésus, mais à un degré immensément plus gros, plus grand. Fait qu'on devrait tellement prier puis être à genoux toute la journée, même sans boire, sans manger, sans dormir. Parce que, non, c'est pas drôle, c'est logique. C'est ça qu'on devrait faire. Puis c'est pas extrémiste ou quoi que ce soit. Puis même si on s'oublie, si on oublie tout l'amour de Jésus, Dieu est tellement grand, tellement puissant, tellement juste, tellement tout, que juste ça, ça devrait suffire pour nous qu'on l'adore. Juste parce qu'il est lui-même. Tellement c'est immense. 100% de la gloire qu'on peut donner est à Dieu. Puis, mais la gloire, d'habitude, soit on la donne à nous, puis quand on la donne à nous, déjà, c'est pas bien, mais ben, aussi on la donne aux autres, en moins gros, là, quand c'est évident. L'Église doit se réveiller. On est tous endormis, toutes vous autres, complètement endormis. On se prostitue au monde, carrément, en acceptant volontairement qu'il y ait une emprise sur nous autres. On est l'Église de Christ, on est son corps, on est l'épouse. On doit divorcer du monde. On est à Christ, pas à Satan. Parce qu'être au monde, c'est être à Satan. Satan, c'est le prince du monde. Ça marche. Puis divorcer, c'est la souffrance. Je le sais, mais je ne me souviens plus quel verset, mais Jésus a dit que pour être son disciple, il fallait qu'on porte notre croix. La souffrance, c'est porter sa croix. Fait que si on porte notre croix, on va être ses disciples. Puis, c'est ça le but de la vie. Hébreux 12:1 dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards de Jésus, les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. »
Seigneur, je suis tellement rien sans toi, puis tout le monde ici, Seigneur, on n'est rien sans toi. Seigneur, je veux vraiment te prier que tu parles à leur cœur, tu me parles à moi, puis que tu parles à travers moi. Premièrement, il y a une question que je veux poser. Est-ce que vous croyez sincèrement qu'on est le corps de Christ? J'ai rien entendu. Est-ce que vous croyez qu'on est le corps de Christ? J'ai rien entendu. Est-ce que vous croyez qu'on est le corps de Christ? D'abord, pourquoi est-ce qu'il y a tant de personnes dans le corps de Christ qui sont malades spirituellement? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'ouvriers qui sont découragés, abattus? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de nouveaux convertis? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des masses, comme Olivier disait, où il y avait 10 000 chrétiens par semaine pendant 2 ans, dans les années 1850? Il y en avait des parties, là, c'était 50 000 nouveaux chrétiens par semaine. Sais-tu? Parce que le christianisme a besoin d'une nouvelle définition, d'une nouvelle définition pour le monde, que le monde a besoin d'avoir un nouveau look, parce que c'est comme outdated, ça n'a plus rapport. Non, parce que, je vais passer ces versets-là, il y a un gars, Leonard Ravenhill, un gars des réveils de ce temps-là, lui, là, j'aime bien ça, ce qu'il dit. Il dit, les personnes du monde n'ont pas besoin de nouvelles définitions du christianisme, ils ont besoin de nouvelles démonstrations du christianisme. Est-ce que vous croyez ça? Ils n'ont pas besoin de définition, c'est de nouvelles définitions, c'est une démonstration qu'ils veulent, c'est une démonstration qu'ils attendent, c'est juste ce qu'ils veulent. Puis vraiment, nous autres, on essaye de tout le changer, de faire une définition, tu sais, on essaye de, comme on dit, l'évangile bonbon, mais ça n'a tellement rien rapport à ce que les autres, ils veulent. Les autres, ils veulent, c'est la vérité. Ça sert à rien de le modifier de n'importe quel sens. Bon, ben, on va passer un verset. C'est pas grave. Puis, OK. Premièrement, le premier point que je vais amener, est-ce qu'on est soumis? Souvent, ce qu'on essaie de faire, là, on essaie de faire une nouvelle définition où ce que nous autres, on peut quand même faire tout ce qu'on veut sans que Dieu nous utilise. On est bien content, on vient ici le dimanche matin, on fait tout ce qu'on veut, on adore, on lève les mains bien haut, puis on a un gros sourire sur la face. On ne veut même pas se soumettre pour que Dieu fasse son œuvre. Ce verset-là, j'aime bien parce qu'il dit, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Est-ce que vous le croyez ça, matin? Est-ce que vous le croyez que c'est quand on est faible que Dieu agit? Ou est-ce qu'on a peur de se soumettre? Est-ce qu'on a peur de se mettre sous le contrôle de Dieu? Est-ce qu'on a peur que Dieu nous utilise de manière que peut-être ça va nous offusquer personnellement? Non. Non. Il faut se soumettre. On leur dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et il ne fit là, il fit pas là beaucoup de miracles parce que à cause de leur manque de foi, leur manque de soumission devant Dieu. On a besoin de se soumettre. La vie chrétienne, c'est de porter sa croix. On a besoin de se soumettre. Fait que c'est quoi qu'on attend? C'est quoi qu'on attend de se soumettre? C'est quoi qui est dans notre chemin? C'est quoi qui nous fait arrêter? Lui, là, ce qu'il dit, là, c'est que ce qui le surprenait le plus, Leonard Ravenhill, quand il est venu là, ici, en Amérique, là, il dit, ce qui me surprend le plus chez eux autres, là, c'est qu'ils sont capables de faire tellement d'affaires sans Dieu. On a tellement de ressources, on a tellement de choses, on peut tellement utiliser plein d'affaires, là, on peut faire plein d'affaires sans Dieu. Oui, ça a l'air bien beau, là, mais c'est pas dire que si nous autres, on soumet et que c'est Dieu qui agit en nous, ça veut dire que nos affaires vont être 10 fois plus grandes. 10 fois, 1000 fois plus grand. Combien de nouveaux convertis qu'on a par semaine, nous autres, ici? Combien? -2? Non, regarde. Là, vraiment, là, c'est pas cool. On n'est pas persécuté. On se dit qu'on vit pour Dieu, mais tout autour de nous, le monde nous accepte comme si on était bien normal, comme si on était les leurs. Puis on n'est aucunement, il n'y a aucune menace qui est montée contre nous. Pourquoi? Oups, je pense que j'ai avancé encore une couple de fois. Là. Merci. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Ouais. Amen. Laisse-moi vous dire qu'il n'y a personne ici qui est persécuté un matin. Il n'y a personne ici. En ce moment, en Chine, en Inde, partout, il y a des personnes qui sont en train de mourir, lapidées, fouettées pour Jésus. Puis nous autres, nos persécutions, ouh, il n'y a qui de moins. Aïe, 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 ça fait mal ça. Ouh. Même, tu peux circuler s'il vous plaît. Même dans nos persécutions, il dit que les apôtres sont sortis de la persécution, ils étaient joyeux. Joyeux. Ils sont fait fouetter intense, ils étaient joyeux. Puis nous autres, le gars, il y a qui de moi, aïe, 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 ça c'est pas trop, là, ouh, là, je suis pas content. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Premièrement, on se fait pas persécuter. Deuxièmement, le monde, il rit de nous. D'abord, est-ce qu'on croit que Dieu est tout-puissant? Est-ce qu'on croit que Dieu peut agir de manière souveraine? Nous autres, là, il y a un quote là, que je veux vous dire. Là, c'est écrit par une femme qui a été vraiment persécutée. Origine de la Réforme, il l'appelle, c'est Blanche Gamond. Elle dit, « Pourquoi voudrions-nous être couronnés d'or puisque notre chef a été couronné d'épines? » Pourquoi devons-nous être couronnés d'or quand notre chef a été couronné d'épines? Est-ce qu'on se croit supérieur? Est-ce qu'on croit que nous autres, vu qu'on vit dans une nouvelle société, on peut vivre main en main avec le monde et main en main avec Dieu? Non. Non, on ne peut pas. Il y a quelque chose qui carrément accroche. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche vraiment pas. Puis c'est exactement ça que je veux essayer de vous faire comprendre. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette église. Il y a quelque chose qui va mal. Regardons-nous, la ville, elle a 10 000 habitants ici à Trois-Rivières. Regarde la salle. Regarde la population au Québec. On n'est même pas 0.1% de chrétiens. Puis on dit que nous autres, on vit fort, on est des chrétiens forts, on vit pour Dieu et on est tellement bons et on est... Regarde, on est crottés. On est crottés intense, mais on s'en rend même pas compte. On se dit qu'on suit Dieu, mais on veut même pas être persécuté. On dit qu'on suit Dieu, on veut même pas y parler. On dit qu'on suit Dieu, on veut même pas l'écouter. C'est qui prend le temps le matin? Dieu est tout-puissant. Dieu peut agir comme il agit dans le passé. Dieu a sorti son peuple d'Égypte. Dieu a fait son peuple rentrer en Canaan. Dieu nous a libérés de la mort. Dieu a fait des miracles. Dieu nous a sauvés. Dieu a guéri les malades. Il a marché sur l'eau. Dieu est Dieu. Est-ce que vous le croyez? Une chance qu'on en a deux ou trois dans l'église qui croient que Dieu est Dieu. Là, ce que je veux faire comprendre, c'est que tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Est-ce qu'on a la foi? Est-ce qu'on a la prière? Est-ce qu'on a la prière? Il y en a qui sont moins sûrs là-dedans. Moins sûrs. Est-ce qu'on veut dire que le début de chaque réveil, depuis que Jésus est mort sur la croix, a commencé avec la prière? Il n'y en a aucun qui échappait à la prière. Ding, ding. C'est une cloche qui sonne. Moi, ça sonnait intense dans ma tête parce que je me suis rendu compte que vraiment, là, j'étais far away. Far away de la prière. Combien de temps est-ce qu'on passe par matin à parler avec Dieu? Combien de temps est-ce qu'on va passer à le comprendre, à méditer sur lui, à lui parler, à lui montrer notre émotion, à lui demander des choses, à se soumettre à lui? Combien de temps est-ce qu'on pense? La prière a changé ma vie radicalement depuis les derniers mois. Laisse-moi dire que j'ai eu une nouvelle vue de la vie chrétienne comme jamais j'avais vu avant. Jamais. Regarde, juste en priant, il y avait une journée à l'école, parce que j'avais demandé à 7 personnes à l'église parce que je voulais témoigner à une classe, OK? J'ai demandé juste à 7 personnes à l'église de parler pour qu'ils donnent un feu aux chrétiens à mon école. Cette journée-là, on a parlé à 18 personnes en une seule journée. 18 personnes. 18 portes ont été ouvertes par la grâce de Dieu. Ça, c'est juste 7 personnes qui ont prié. Prenez toutes vous autres, 300, 400, 500. Je pense que ça va faire un petit effet, ça. Mais c'est quoi qu'on attend? 30 minutes à matin, c'est quoi que ça va faire? 30 minutes, tu te couches 30 minutes plus tard le soir, c'est rien. Ouh, se lever 30 minutes le matin. Wouhou! Si tu parles d'un défi, là, regarde, wow, il faut que je check, faut que je fasse mes cheveux, puis après, il faut que je me maquille. Là. Mais non. On ne comprend pas la souveraineté de Dieu. On ne comprend pas c'est qui qu'on sert. On ne comprend pas c'est quoi qu'on est. C'est quoi être un chrétien? Chrétien, c'est quoi le mot d'un chrétien? C'est Christ. C'est quoi que Christ il faisait avant de mourir, comme Joël le disait? Il était à genoux. Et qu'est-ce qu'il va dire s'il revient ici? Vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi? Ou est-ce qu'il va dire, bon et fidèle serviteur? Ça va tout juste dépendre de vous autres.
S'il vous plaît, ne vous arrêtez pas à leur âge. Ils sont jeunes, ils n'ont rien à perdre. Ce serait très facile de se dire ça. De se dire, il me dit de quitter, il me dit de faire ci, mais lui, il n'a rien à perdre. Il est chez ses parents, il mange chez ses parents, il ne fait pas sa nourriture, il ne paye pas ses comptes de taxes, puis tout ça. Ne vous arrêtez pas à ça. C'est vraiment les versets qui nous ont motivés. La parole de Dieu et la parole de Dieu est aussi pour vous. Puis, aussi une autre chose que je voulais préciser, c'est qu'on ne veut pas ce matin pour vous une expérience mystique. On ne veut pas que le Saint-Esprit descende, qu'on se mette à rouler par terre ou n'importe quoi. C'est des changements de cœur, et des changements de cœur, ça se fait dans la prière et ça se fait en portant sa croix. Je ne peux pas vous raconter des âneries ce matin, OK? C'est pas tout d'un coup que vous allez dire « Wow, je viens prier avec vous autres le matin, puis tout d'un coup ma vie va changer. » Non. C'est en priant et en portant sa croix. Ça se fait jour après jour. Eh bien, Seigneur, je veux venir devant toi parce que je veux pas trop pleurer, parce que je veux surtout apporter devant ces gens ton message qui est si puissant. Et si je perds du temps à faire n'importe quelle ânerie, ce ne sera pas pour toi. Saint-Esprit, viens en moi, viens en nous. Descends sur nous, réveille-nous et donne-nous, comme on dit, une deuxième Pentecôte. Vraiment un agissement puissant de ta part. Amen. Moi, ça a commencé... Dieu est vraiment bon. Il a commencé avec moi avec un moment d'incrédulité énorme il y a environ 3 mois. J'étais le soir, puis j'étais dans mon incrédulité et je disais à Dieu, je disais à Myriam, Seigneur est au ciel, il fait ce qu'il veut, il règne. Puis, donc, s'il est tout puissant, comment ça se fait qu'il ne se passe pas de réveil? Comment ça se fait qu'il ne se passe rien? Puis, tu as le verset aussi qui dit qu'il ne veut... Oh, excusez-moi, je vais passer à la télécommande parce que moi, je n'arriverai pas à suivre la télécommande. Tu as aussi le verset, vous aurez les références là, mais je suis désolé, le PowerPoint, on n'avait pas allumé sur le fait qu'on ne va pas bien en haut là. Mais n'hésitez pas, si vous le voulez, on peut vous donner nos versets, mais de toute façon, vous avez votre Bible, alors n'hésitez pas à la lire. Mais il dit, il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Puis je disais ça, puis j'ai dit, ben garde, il n'y a pas de réveil ici à Trois-Rivières, on est 300, il y a 100 000 personnes à les conquérir, on n'y arrivera jamais, jamais, jamais. Si on a une conversion par année, ben c'est bien beau, dans un an, on va être 600, waouh, les autres 100 000, ils continuent à mourir, OK? Donc là, j'étais tout le temps avec tout ça, puis j'étais dans une espèce de bassin d'incrédulité immense en disant, mais finalement, Dieu veut peut-être pas de réveil, il veut, c'est ça, je veux dire, je vais ma petite vie médiocre, puis je vais continuer ma vie médiocre. Mais j'ai appris une grande chose, c'est que le problème ne vient jamais, jamais de Dieu. Premier problème qu'on a, c'est notre incrédulité. Première chose, incrédulité. Jésus dit, je n'ai pas pu faire des miracles. Donc, il n'a pas dit, je n'ai pas voulu faire de miracles. Il dit, je n'ai pas pu faire de miracles. Donc, on voit là qu'il y a une notion que Dieu volontairement se limite à notre incrédulité. Il fait selon ta foi. Il a dit combien de fois dans les Nouveaux Testaments? Ah, il le sera fait selon ta foi. Dieu est impressionné par la Samaritaine. Dieu est impressionné par le centurion romain. Il est impressionné par bien du monde. Il sera fait selon ta foi. Donc, c'est la première chose qui nous bloque notre incrédulité. Le suivant, s'il te plaît, le 12, je ne l'ai pas sur mes notes. Les pharisiens ont entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons. Il y a une erreur là-dessus. C'est Marc 12, 24. Peut-être que quelqu'un peut prendre Marc 12, 24. Mais il y a une chose qui est claire, et Dieu le dit aux pharisiens à plusieurs reprises. Il leur dit, je trouve que cette parole s'applique tellement, tellement à ma vie, à mon Église. Il a dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Il disait ça à des pharisiens que je ne considère pas qu'ils sont chrétiens. Mais je trouve que c'est une parole qui est vraiment intéressante à appliquer à notre vie. Puis, vous voyez, dans Marc 12, 24, il dit, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. On est incrédule, on ne comprend pas la puissance de Dieu. On n'a pas la foi. Et je me suis rendu compte d'une grande chose aussi. C'est que lorsque vous prenez les évangiles, il y a une parabole sur les 4 grains. La parole est semée et il y a les 4 grains qui sont semés. Puis depuis le début, moi j'avais la mauvaise théologie. On m'avait enseigné que j'étais le 4e grain, celui qui porte du fruit, 30, 60, 100. Mais je suis désolé, quand je regarde ma vie, je ne vois pas de fruits. Je ne vois ni de fruits en conversion, parce qu'on pourrait très bien prendre ça selon le passage. Le passage semble parler de conversion. Mais si je regarde ma vie, je n'ai pas de conversion. Mais là, tu pourrais dire, mais c'est pas ça de conversion, il parle d'autre chose. Bon, ben c'est ça. Si c'est la lecture de la parole, excuse-moi, je n'ai pas 30 fruits au niveau de la lecture de la parole. OK, j'en ai peut-être 10 ou peut-être 5 ou peut-être 3, je ne sais pas. Mais c'est sûr, je n'ai pas 30, je n'ai pas le 60, je n'ai pas le 100. En prière, je n'ai pas le 30, je n'ai pas le 60, je n'ai pas le 100 fruits. Donc, c'est sûr que ce 4e grain, ce n'est pas de moi qui parle, de lequel qui parle. Ça fait que je me suis remis à lire. Et finalement, je vois le 3e grain. Le 3e grain, il est pris dans les épines. Puis regardez bien ça, 1800, écoutez bien ça, c'est important, un commentaire biblique qui a été écrit en 1850 dans le réveil en Angleterre, dans ce réveil que je souhaite tellement pour le Québec. Il dit que, justement, premièrement, donc, c'est les soucis du monde, c'est les déceptions des richesses, c'est le plaisir de cette vie, les convoitises des autres choses qui entrent en vous, que Jésus est en train de mentionner là. Puis, c'est important de voir le mot convoitise. On a tellement tendance à interpréter le mot convoitise puis pas l'appliquer à notre vie, à dire « Ah, ben je ne convoite pas vraiment la femme de mon voisin, je ne convoite pas vraiment son affaire, son spa, mais tabarnouche, quand je vois le public sac, j'aimerais tellement m'acheter un spa pareil. » Puis c'est ça qu'on ne réalise pas, c'est que notre convoitise est vraiment... Je vais retoucher ça après encore. Mais écoutez bien encore ce qu'il dit ici. Il dit... Ceux-ci, donc le grain, là, qui est le troisième grain, qui est moi, il dit, il est étouffé, smoother, c'est ramolli. La parole est ramollie, il n'y a pas de force. Mais c'est normal qu'il n'y ait pas de conversion dans ma vie puis pas de prière, je suis ramolli. Il dit, détournant tellement l'attention de la personne, absorbant tellement de son intérêt. On parle des plaisirs du monde, des richesses, etc. Et accaparant tellement son temps que seulement quelques miettes restent pour les choses spirituelles. Ainsi, tout ce qui reste de la religion d'une telle personne est un formalisme sans cœur, pressé et défraîchi. N'est-ce pas là tellement, tellement notre vie? On a tellement de choses à vous dire ce matin, mais vous savez quoi? Tout ce qu'on a découvert, on n'est pas des super, là. Je suis loin d'être un théologien et encore moins un bon orateur, mais simplement en priant. Prenez du temps pour prier, puis vous allez découvrir des grandes choses et des grandes puissances. La prière. Jean 14, 12, verset 12, verset 13, verset 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera de plus grandes œuvres que moi. Il y a toute une notion aussi dans le verset, dans les chapitres 14 et 15. Je vais retoucher encore après. Oswald Sanders, on n'en a pas parlé encore, Oswald Sanders, on l'a-tu mis finalement? Oswald Sanders, c'est très intéressant, regardez bien ça. Si on arrive à lire là-dessus, ce sera encore mieux, mais c'est la fin qui est vraiment importante. Il disait que finalement, les missions ont toujours avancé à genoux. C'est toujours à genoux et par la prière que les missions ont avancé. Et au Québec, on est dans une mission. Il dit, là où la prière a été prédominante, les choses ont bougé. Quand la prière était tiède, sans force, l'œuvre s'est figée. N'est-ce pas étonnant que malgré notre conviction que la prière est un privilège et une nécessité, nous avons tous une étrange aversion contre la prière. Et c'est énormément difficile de se lever le matin pour prier. C'est une nature à l'intérieur de nous. Je le dis à mon fils, mon garçon, c'est lui qui prie pour le souper. Tout le temps, c'est la règle dans la maison, c'est lui qui prie pour le souper et je pense presque chaque fois, il dit « non, je ne veux pas » ou il essaie de s'en détourner. Je lui dis « Josué, c'est normal. Ta nature elle-même le dit. Tu es en aversion contre la prière. Il faut prier. » Et j'ai découvert une grande chose, c'est que je suis un bébé, un vrai bébé dans la prière. Et il y avait Pierre Lefrançois, je pense qu'il était là, qui est missionnaire, je pense, ou qui s'en va, ou qui n'est pas parti en tout cas en France. En tout cas, son nom de famille, c'est Lefrançois. Puis, il me racontait des choses sur sa vie de prière, puis je me rendais compte que moi, je ne le vivais pas. Tu sais, quand vous lisez dans les livres, là, qu'une personne, il y a comme un... Monsieur Lefrançois, il dit, à un moment donné, j'arrive chez nous, puis là, je sens tout d'un coup un fardeau. Il faut que je prie, il faut que je prie, il faut que je prie. J'arrive pas à m'en détourner, mais pour qui je prie, je ne sais pas pourquoi. Tu sais, quelque chose comme ça, là, que tu sens, qui n'est pas normal, qui n'est pas naturel, c'est du surnaturel. Puis, j'avais jamais expérimenté ça dans ma vie. On le lit tellement dans tellement de livres de personnes qui vivent des choses comme ça. Puis, on ne l'a pas. Puis, vous allez voir tantôt, là, je vais vous donner un verset d'Ésaïe qui est vraiment intéressant aussi. Notre problème aussi, c'est une désobéissance. Écoutez bien ça, il dit, Romains 8, il dit, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. » Je pense qu'il faudrait le lire et le mettre en gros. Là. N'hésitez pas. Hein. Si à un moment donné, ça vous touche vraiment ce verset-là, là, prenez une chaudière de peinture et mettez-le sur votre mur de chambre. Parce que c'est un combat. Hein. Les épines sont là. Okay? Puis même si vous vous réveillez ce matin en disant « OK, c'est beau, je vais faire des affaires hey, », les épines sont fortes puis ça repousse. J'ai réalisé une grande chose. À ma grande tristesse, pour la première fois cette semaine, j'ai réalisé quelque chose. Je savais que par ma vie stupide, ma vie de consommateur, je savais que je ne contribuais pas à l'Évangile. que j'ai contribué peu à l'Évangile, en tout cas. Et c'est une illusion, parce que ce n'est pas la réalité. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous ce matin. Je vous encourage à lire M. Yohanan, Un retour vers la réalité. Il disait quelque chose et qui est vraiment frappant, c'est que dans ma consommation, ma recherche de confort, on recherche tellement notre confort, juste mon beau petit Gore-Tex, North Face, 250$. Si vous saviez ce que ce gars-là il fait avec 250$, M. Yohanan, on recherche notre confort. Quand je consomme, je suis en train de prendre de l'argent, le dépenser pour mon confort. Puis en même temps, ça veut dire que volontairement, je nie qu'il y a quelqu'un qui meurt dans le sud de faim. Il y a une gang de nous autres qui est allés en Haïti. On le sait, ils mangent de la terre là-bas, OK, pour calmer leur faim. Je le sais, on le sait tous ici, on est conscients. On ne peut pas prier, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas. On le sait. Mais on ne le fait pas. Et qu'est-ce qu'il dit, M. Yohanan? C'est que dans cette mentalité de rechercher tellement le confort, c'est qu'on approuve l'avortement. On approuve notre société qui s'en va vers l'euthanasie. L'avortement est 100% un désir de confort. On s'en fout si quelqu'un meurt, je veux mon confort. Je m'en fous si l'Haïtien meurt, je veux mon confort. C'est une vérité fondamentale. Et ça, je n'avais jamais vu ça. Que je contribuais à l'œuvre de Satan. Et puis après ça, ça devient réel pour moi, des versets comme « Mettez en pratique la parole de Dieu, ne vous bornez pas à l'écouter. Nous avons l'apparence de la piété, mais renions ce qui en fait la force. Mon peuple m'honore de ses lèvres, mais son cœur n'est pas pour moi. » On n'aime pas Dieu, on ne réalise pas grand-chose. Importance, maintenant un autre point que je veux amener, obéissance. Obéissance n'est pas du légalisme. Qu'on arrête d'avoir peur et de frissonner quand on nous parle de versets d'obéissance. Ce n'est pas du légalisme. Et Yohanan en parle aussi. Jean 14, versets 15, 21, 23, Jean 15, 14, tous des versets qui disent, « Si tu m'aimes, tu vas garder mes commandements. Si tu m'aimes, tu vas faire ce que je dis. » 15, tu peux passer 15, il dit, si t'es mon ami, tu vas faire ce que je te dis.
C'est correct.
Il y a une notion d'amour, là. Une notion de nier sa propre personne. Important aussi, Luc 3, regardez ça. Une chose logique, là, on pourrait dire, OK, bon, ben c'est beau, Seigneur, mais regarde, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Puis le peuple a demandé ça à Jésus. Qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous pensez que Jésus a dit une grosse théologie immense? Il a dit quelque chose de très, très simple. Celui qui a deux tuniques, qui partage avec celui qui n'en a pas. Et puis faites pareil pour la nourriture. Hey, il n'y a pas plus simple que ça, là. Allez pas chez vous, puis essayez de vous inventer un faux raisonnement, puis retomber dans les épines, là. C'est très, très clair, là. Celui qui a deux tuniques, t'adonne, puis c'est tout. Et puis, dans la même ordre de pensée aussi, Marc 10, Marc 14, etc. Non, il y a aussi un verset qui dit « Veillez et priez, car la chair est faible. Travaillez, non pas pour la nourriture qui périt. » Puis, c'est ce que je me demande, moi. Ma question est presque à être là, c'est que combien de temps encore Dieu va avoir pitié de nous puis va être patient? Parce que vous savez, on est vraiment en offense. Présentement, je suis en offense devant Dieu. Je ne suis pas en train de faire sa volonté. Puis il y a une coupe de nos offenses qui s'accumulent devant lui. Le Québec accumule une coupe d'offenses. La persécution va s'en venir. Vous allez perdre votre maison, vous allez perdre votre voiture, vous allez perdre votre liberté, vous allez briser vos relations. Yohanan, il l'a dit très bien dans son livre. Il dit à ses disciples qu'il a fait des promesses, Jésus. Vous savez c'est quoi ces promesses qu'il a faites? Vous n'allez pas avoir d'argent, vous allez perdre vos relations. Et en ces trois, j'oublie la troisième. Il cite trois promesses que Jésus a faites. Je suis désolé, c'est ça les promesses. Si vous n'êtes pas d'accord avec ces promesses-là, bien veuillez vous lever et quitter. Vous n'êtes pas parti du corps de Christ. Le corps de Christ est là. Et c'est, comme je vous ai dit, ce n'est pas du légalisme, c'est de l'obéissance. Malachie 3:10. Il dit, donnez à Dieu vos offrandes, amenez au temple vos offrandes. Ça fait partie de l'amour de Dieu. Puis vous allez voir que lui, il va ouvrir les écluses des cieux. Puis vous savez, à mes oreilles, de plus en plus, des critiques sur les offrandes. L'Église gère mal. Écoutez, si ça monte à mes oreilles, ça monte à les oreilles de quelqu'un d'autre qu'on connaît qui est fort. Puis celui-là, quand sa coupe va être pleine, bien, vous allez en perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous savez, quand Jésus était là avec le peuple, hein, il n'a jamais dit au peuple, « Rendez à César ce qui est à César s'il gère bien » ou « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu quand il gère bien ». C'était la pire situation. Les publicains, les pharisiens, l'Empire romain, c'était les pires de pires. Mais Jésus n'a pas passé du tout un sujet là-dessus. Il a dit, « Donnez à Dieu ce qui revient à Dieu ». Nous devrions toujours porter la mort de Jésus dans notre corps. 2 Corinthiens 14. C'est ton Sauveur qui te dit, « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Si quelqu'un vient à moi et qu'il ne hait pas sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Mais la puissance de Dieu est très grande. Le défi est immense. Moi, mon but avec ça, là, c'était pour montrer à quel point vous êtes des incapables et que je suis un incapable. C'est vraiment par la puissance de Dieu qu'on arrivera à faire de grandes choses. Et la puissance de Dieu se trouve dans la prière. C'est dans le calme que sera votre force. Écoutez ça, Ésaïe 20b21. Oui, Dieu t'enseigne. Oui, Dieu qui t'enseigne ne se cachera plus. Tu verras de tes yeux le Maître qui t'instruit. Alors tu entendras une voix derrière toi. C'est ici le chemin. Suis-le. Là. Va à droite. Là. Va à gauche. Il parle de quoi, là? Quand tu vois de tes yeux le Maître, est-ce qu'on a vu les yeux de notre Maître? Dans ce que tu es rendu tellement proche de l'Esprit que l'Esprit te parle. Va là. Va à droite. Va à gauche. Moi, excusez-moi, je ne l'ai pas beaucoup entendu. Ça commence doucement, doucement. Mais je suis un bébé. J'ai tellement à faire. Monsieur Lefrançois voyait de par sa vie qu'il entendait plus. Et tellement des personnes dans les réveils ont entendu des choses, des voix concrètes. Mais ce n'est pas une expérience mystique qu'on recherche. C'est une vie de piété, un changement profond dans notre cœur. Et ça finit par quoi? Ça finit par la repentance. Allez-vous inverser les rôles? Ésaïe 29. Allez-vous prendre le potier pour l'argile et dire, tu ne sais pas ce que tu fais? Revenez donc à l'Éternel, dont vous vous êtes tout à fait détourné. En ce jour-là, chacun jettera ses idoles qu'il s'est fabriquées avec des mains coupables. Nos maisons regorgent de matérialisme et tellement pleines qu'on est rendu à fouler nos garages puis à fouler nos cabanes. Nos cabanons, nos remises, puis tout ça. Puis vous savez, c'est clair, hein? Les proverbes le disent, hein? Plus t'as d'objets matériels, plus t'es stressé. Puis on le sait très bien. Mais vous savez, qu'est-ce qu'on fait dans notre raisonnement super logique? Qu'est-ce qu'on fait pour relaxer? On s'achète un cinéma maison, un gros écran plat. J'en ai un chez nous, je suis coupable. On pense à un spa, ou on s'achète un spa pour relaxer. On se paye un voyage dans le sud pour relaxer. Donc, pour nous sauver de notre conscience et de notre stress matérialisme, on amplifie notre boucle, puis on dégrade et les épines poussent. Car ainsi parle le Seigneur des armées, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Car Dieu te fera grâce quand tu crieras, et lorsqu'il t'entendra, il répondra en ton appel. C'est comme ça qu'on veut terminer ce matin. On veut terminer dans un temps de prière, parce que face à ce qu'on vous a présenté, puis on est tellement poche, on n'est tellement pas des orateurs ou des théologiens, c'est le Saint-Esprit qui va faire un travail. Nous, on pourrait vous donner un coup d'émotion ce matin, en essayant de jouer une musique mélodieuse à votre cœur, mais c'est un changement réel et profond qu'il faudra faire. Moi, je suis prêt à embarquer à 100 à l'heure. Si on se lève comme Église, s'il y a une majorité de nous qui se lève, qui changeons foncièrement, profondément la structure de l'Église, en sachant ce que notre Sauveur, notre Messie a fait pour nous, j'embarque à 100%. Je veux... Il y a quelques personnes que j'ai demandé à venir en avant pour, si vous voulez venir en avant, si David, tu peux venir nous jouer une musique comme je t'avais dit. Si ce matin, vous avez quelque chose à faire, à mettre en compte avec Dieu, si vous avez ce matin un vœu à donner à l'Éternel, peut-être que ce matin vous dites, Seigneur, je veux te faire un vœu, je te promets quelque chose, je te promets mes matins de prière, je te promets mon cabanon ou je ne sais pas. Dieu touche votre parole, Dieu touche votre cœur, je veux dire. Vous savez, on a préparé ça dans la prière pendant longtemps. Et on vous invite aussi à prier. Et ceux qui ont le désir, simplement vous lever, venir dans le coin là-bas pour prier. Si vous n'avez pas la forme physique pour prier, n'hésitez pas à rester sur place. Dieu connaît votre cœur bien plus que vos genoux. Ne faites pas ça du tout pour une apparence humaine. Si ça ne vous touche pas ce matin, ça se peut très bien que ça ne vous touche pas ce matin. Peut-être que vous êtes là pour la première fois, vous êtes libre de quitter. N'hésitez pas à vous lever, il est déjà quand même l'heure est avancée. Et puis, si vous avez à cœur de prier, à mettre quelque chose vraiment un défi, moi, je vais me tenir ici en avant. Il y a d'autres personnes qui vont venir se tenir en avant. Et puis, n'hésitez pas, si vous voulez avoir quelqu'un qui rende compte, je veux faire ce vœu-là à l'Éternel et je veux te prendre comme témoin, n'hésitez pas.